Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin dans la lettre de Paul à Tite au chapitre 3 et au verset 1. Tite, chapitre 3, verset 1. Avertis-les d'être soumis aux princes et aux magistrats, de leur obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Et notre sujet sera le suivant, les bonnes œuvres du croyant. Et si le temps le permet, j'aimerais considérer un certain nombre de versets, jusqu'au verset 8 dans ce chapitre, parce que ce passage est un passage remarquable. Nous avons considéré dans l'étude précédente le passage du chapitre précédent, et je pensais que ce serait une bonne chose pour nous, un encouragement pour nous de considérer ce chapitre avant de démarrer une nouvelle série d'études. Et nous commençons avec ce verset. Avertis-les d'être soumis aux princes et aux magistrats, de leur obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Ce terme « bonne œuvre » revient à nouveau au verset 8. Tout d'abord, c'est un passage qui parle de notre position dans le monde. Avertis-les. Les traductions modernes disent « rappelle-leur ». Ceci est juste, mais notre version a un terme un peu plus fort, délibérément. Avertis-les. C'est quelque chose d'intéressant. L'apôtre Paul veut dire un peu plus que « rappelle-leur ». Ce n'est pas simplement de leur rappeler leur devoir en tant que chrétien, d'obéir au gouvernement, mais avertis-les. Cela signifie leur rappeler, mais également c'est un peu plus fort que ceci. Dans votre travail, il y a des choses que vous devez avoir à l'esprit constamment. Je pense à une illustration très simple d'une personne qui aide les enfants à traverser sur le passage piéton pour arrêter les voitures pour permettre aux enfants de passer. Ils ont constamment à l'esprit la sécurité des enfants. Les enfants qui arrivent pour passer sur ce passage piéton, de prendre soin des enfants pour que tout soit en ordre, d'arrêter les voitures pour que les enfants puissent passer. Et ils ont constamment la sécurité des enfants à l'esprit. Et personne n'est là en leur disant « J'aimerais vous rappeler que vous devez toujours faire bien attention que les enfants soient en sécurité. » Non, c'est un avertissement, quelque chose de plus fort. Et c'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul donne ces termes. C'est plus fort que simplement leur rappeler. Avertis-les, les chrétiens, d'être soumis aux princes et aux magistrats. Nous devons toujours être attentifs à ceci et conscients de ceci. D'obéir au gouvernement, aux magistrats. Les grandes confessions de foi réformée, la confession de Savoie, de Westminster, des baptistes, au XVIIe siècle, avait tout ceci qui était inclus, que Dieu gouverne sur tous les peuples, en incluant les chrétiens également dans la société, en mettant en place les gouvernements. Peut-être que ce sont des gens qui sont élus par nous, ou peut-être que ce sont des rois et c'est héréditaire, une génération après l'autre, qui est au pouvoir. Mais la race humaine a besoin d'un gouvernement, et ceci vient de Dieu. Est mis en place par Dieu. Et c'est par cette loi, par le gouvernement civil, que l'ordre est maintenu dans la société. Sinon, dans ce monde déchu, si Dieu n'avait pas mis en place des gouvernements, et si la société ne désirait pas s'organiser dans une société civile avec un système de loi, alors le monde, ce serait impossible d'y vivre à cause du péché. Et il y a certains endroits dans le monde, comme vous le savez, ici et là, où ceci est démontré, où il y a l'anarchie, où les circonstances sont terribles et rien ne fonctionne, et tout est misère pour le peuple, parce que c'est simplement un groupe contre un autre, et c'est l'anarchie. Mais si Dieu n'avait pas mis dans la constitution humaine ce désir de loi et d'un gouvernement, et ce désir pour des lois et cette acceptation de la loi de l'ordre, alors nous ne pourrions pas vivre. Cela vient de Dieu. Dieu règne dans le monde et garde cet ordre par le moyen des différents gouvernements. Certains chrétiens de nos jours, certains de ces prédicateurs, célébrités sur Internet, oh, c'est une minorité dans le monde chrétien, mais parce qu'ils sont sur Internet, les gens ont l'impression que ce doit être l'opinion qui prime dans le milieu évangélique. Ils disent, Nous croyons dans l'écriture seule, mais ce n'est pas le cas. Ils croient dans l'écriture tant que ceci va dans leur sens. Mais sous différents points, ils ont créé leur propre théologie. Et ils ont mis de côté les grandes confessions de foi sur lesquelles nous nous basons, qui sont toutes en accord sur ce sujet-là. Et ces gens disent « Non, l'Église est exempte des lois du gouvernement et on ne peut pas demander à l'Église de porter un masque, etc. ou d'avoir une distanciation sociale. Non, l'Église est dirigée uniquement et directement par Christ. Mais non, ceci est faux. L'enseignement de la Bible, de l'Écriture, c'est que Dieu règne sur tous par le moyen de l'autorité civile. L'Église, les âmes sauvées, le royaume de Dieu est sous l'autorité de Christ, oui, pour les doctrines, pour la justice, pour l'obéissance à Dieu. Nous sommes tous soumis au gouvernement, mais si le gouvernement contredit Dieu, alors nous obéissons à Dieu. Mais nous ne mettons pas de côté toutes ces choses que nous n'aimons pas dans le gouvernement ou dans la société, parce que ça, c'est une théologie de non-sens qui est toute nouvelle et qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu et avec la foi chrétienne historique. J'ai passé beaucoup de temps, mais je voulais mentionner ceci, parce que tout le monde va sur Internet et certains écoutent ces prédicateurs, peut-être que 75% de ce qu'ils disent est juste, mais ils font entrer ces idées qui sont hérétiques et qui sont contre la parole de Dieu. Ce sont des minorités, mais ils semblent influencés partout à cause de leur influence sur Internet. Au verset 1, « Avertissez-les, ayez constamment ceci à l'esprit, d'être soumis aux princes et aux magistrats, au gouvernement, et au gouvernement national et local, de leur obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, et au verset 2, de ne médire de personne, qui tout d'abord s'applique aux gens du verset 1. Non seulement sommes-nous soumis au gouvernement, à la société civile, mais nous ne devrions pas dire du mal de la société civile, du gouvernement. Certaines de ces célébrités, ces prédicateurs, sur leur blog, ou dans les réseaux sociaux, vous voyez qu'ils insultent librement ceux qui sont à la tête de leur pays. Un homme en particulier qui, aux États-Unis, critiquait et insultait terriblement la personne qui a conseillé le gouvernement en termes médicaux. Mais la parole dit de ne médire de personne. Certains de ces prédicateurs disent « Oh, cette personne est un menteur, un insensé ». Tous les jours, ils écrivent ces choses sur les réseaux sociaux. Ils disent la parole de Dieu seule, mais ce n'est pas ce qu'ils mettent en pratique. Ils croient en parole de Dieu tant que ceci va dans leur sens. Mais ils sont bien loin des Écritures, dans leur attitude vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de la société, des lois. De ne médire de personne, de n'être point querelleur, d'être modéré et de montrer une parfaite douceur envers tous les hommes. De montrer une parfaite douceur envers tous les hommes. Est-ce que vous avez une personnalité colérique, enflammée rapidement? Peut-être que c'est quelque chose qui montre que vous avez beaucoup d'énergie, d'initiative. Mais faites bien attention que vous n'ayez pas cet esprit critique envers les autres, en trouvant toujours quelque chose pour critiquer les autres. De montrer une parfaite douceur envers tous les hommes. Comment faisons-nous ceci? Comment est-ce que nous maintenons cette douceur envers tous les hommes? Voyez la méthode de l'apôtre Paul, au verset 3. « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. » Et il y a ici une liste de nos péchés passés. Et examinons-nous nous-mêmes. Quelle personne, quel genre de personne est-ce que j'étais? Si je suis impatient avec les gens du monde, avec les gouvernements, comment est-ce que j'étais dans le passé? Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Ce terme traduit par insensé ici a à l'esprit, littéralement, quelqu'un qui n'a pas exercé son cerveau, sa pensée. C'est ce terme insensé, qui n'exerce pas sa pensée, qui ne réfléchit pas. Et c'était là notre attitude, nous ne pensions pas que ce monde est créé, que je dois rendre compte devant Dieu. Nous ne pensions pas à ces choses, nous n'avons pas considéré ces choses ou réfléchi à ces choses. nous n'avons pas utilisé notre cerveau. Nous n'avons pas compris le prix à payer pour vivre uniquement pour ce monde et pas pour notre âme. Nous étions insensés en ne pensant pas à ces choses, désobéissant de manière délibérée contre Dieu, égarés. Nous étions naïfs, égarés rapidement, emportés par le monde. Nous étions critiques contre les choses spirituelles. Quand quelqu'un nous disait « il y a un Dieu, nous devons rendre compte », nous étions critiques contre ceci. Mais tout le reste, tout ce que le monde nous apportait, nous étions emportés, égarés, rapidement emportés. C'est là le sens de l'original en grec. Assujetti à des passions. Ce terme assujetti, c'est servir, être esclave de passions. Non seulement nous les servions, mais nous étions également esclaves de ces passions, de ces tentations. Nous étions liés à ces choses, à des passions diverses, une chose, une autre, le péché, dans tous ses aspects. Les passions, les plaisirs, les choses de la chair, vivant dans la malice et dans l'envie. Oh, ceci était dans nos cœurs avant d'être sauvés. Si quelqu'un nous offensait, nous étions pleins de haine. Si quelqu'un nous faisait du mal, plein de haine. Si quelqu'un ne nous flattait pas, n'était pas d'accord avec nous, plein de haine. Et nous, dans notre orgueil, nous pensions que nous pouvions tout posséder. Si quelqu'un avait quelque chose que nous voulions, nous étions pleins de convoitise. L'apôtre Paul dit « Souvenez-vous de ces choses. » Si en tant que chrétien, vous trouvez que c'est difficile d'être plein de douceur envers les gens qui sont autour de vous, souvenez-vous de ce que vous étiez avant votre conversion. Voyez-vous, sa stratégie, sa méthode, plein de haine, et nous haïssant les uns les autres, nous haïssant les uns les autres, même envers notre femme, envers notre mari, elle a fait quelque chose que je n'apprécie pas, alors je la hais, ou il a fait quelque chose que je n'apprécie pas, alors je le hais. Se haïr l'un l'autre, même ces gens qui sont autour de nous, notre famille, ceux que nous aimons. Être plein de colère. Et nous étions ces gens-là avant notre conversion, dans ce verset 3. Car nous aussi nous étions autrefois. Et ensuite il y a cette liste terrible de péchés. Et au verset 4, tout a été changé. Nous avons été transformés. Mais lorsque la bonté de Dieu... Oh, j'aimerais lire ce passage mot à mot parce que c'est un passage merveilleux. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, ce terme « bonté » au verset 4, Dieu a agi en nous dans sa bonté. C'est un terme difficile à traduire. Cela signifie sa bonté en action. Voyez-vous, le Dieu Tout-Puissant, il est bon dans sa personne même. Dieu fait toujours le bien. Dieu est toujours plein de bonté. Si je puis dire, il est toujours prêt à faire le bien. Mais lorsque la bonté de Dieu, sa détermination à faire le bien et son amour, ce terme est un terme particulier, son amour, ce terme en grec traduit ici par amour, nous l'avons dans notre langue. Ainsi, nous pouvons utiliser ce terme grec. Amour, c'est philanthropie. C'est là le terme que l'on utilise de nos jours. Son amour, sa philanthropie. Est-ce que c'est une mauvaise traduction? Non, pas du tout. Nos traducteurs ont traduit ceci parfaitement. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes, si vous mettez ensemble l'amour pour les hommes, vous avez ce terme philanthropie. Lorsque la bonté et la philanthropie de Dieu, cet amour pour les hommes, cette affection personnelle pour les êtres humains. C'est là ce terme en grec. Et nos traducteurs ont tout traduit de la bonne manière dans ce passage. Pourquoi est-ce important? Parce que ceci parle de quelque chose d'unique. Ce que nous pourrions appeler le projet de l'homme dans le ciel, avant la création du monde, il y avait là conçu dans l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, quelque chose que nous pourrions appeler en termes humains le projet pour l'homme, pour l'être humain. pour l'humanité. L'humanité allait être créée. Le projet pour l'humanité, c'est le but pour toute chose. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'univers et les étoiles et les galaxies et l'univers? Pourquoi est-ce que Dieu a créé la planète Terre? Parce que tout ceci, c'était pour le projet pour l'humanité. C'était là le but ultime, l'objectif. L'affection de Dieu pour l'humanité, pour les êtres humains. L'affection de Dieu pour son plus grand projet, l'humanité. Le projet pour l'humanité. Ainsi, l'homme a été créé et le monde a été créé pour l'homme. Et l'homme était le centre, l'élément central de la création. C'était là le but, mais il a chuté. Il a péché. Il a désobéi à Dieu. Et il a été plongé dans le jugement, dans la misère. Le projet pour l'humanité a échoué. Le projet pour l'humanité est perdu. Satan a saisi l'occasion et a vaincu et a fait chuter l'humanité pour l'envoyer en enfer pour toujours. Mais non, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu pour l'être humain, l'amour personnel, l'affection pour le projet pour l'humanité a pris la forme d'une grande compassion. Pour l'état de l'être humain, quelle tragédie pour les âmes individuellement qui vont dans la perdition éternelle et en enfer, le projet pour l'humanité. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, c'est quelque chose de très important. Le salut, c'est l'œuvre de l'affection toute particulière de Dieu pour le projet le plus important dans la création, le projet pour l'humanité, pour sauver des millions et des millions d'hommes et de femmes, d'êtres humains, pour les amener dans la gloire céleste, pour leur donner un jour des corps de résurrection et la perfection et l'absence de péché pour qu'ils puissent régner avec lui pour toujours. Il a eu cette compassion, cet amour pour les êtres humains, l'amour de Dieu pour les hommes qui a été manifesté. L'apôtre Paul ici veut souligner ceci. Est-ce que vous ne pouvez pas voir en vous cette affection pour le projet, pour l'humanité également? Parce que ceci est rappelé au verset 8. Écoutez, c'est solennel, cette parole est certaine et je veux que tu établisses fortement ces choses. Ces choses sont si importantes afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. Comme Dieu, vous avez cet amour pour le projet, pour l'humanité. Et alors que vous êtes sur cette terre, vous ne pouvez pas réformer le monde. Le monde est maudit, il a chuté loin de Dieu, il est condamné. Mais vous pouvez être bon envers les autres, plein de compassion, et apporter l'évangile aux autres, et aider les gens autour de vous. C'est là ce que l'apôtre Paul veut dire ici. Et tout se concentre sur ce terme du verset 4, l'amour de Dieu pour ce projet pour l'humanité, cette philanthropie. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, manifestés, c'est un terme merveilleux également, manifestés, en grec, c'est resplendir, être radieux, c'est là ce qu'il fait, il a été manifesté. Vous vous souvenez quand il a été manifesté pour la première fois dans votre cœur? Et vous avez compris, émerveillé, l'Évangile, vous avez compris l'expiation de Christ, l'amour de Christ. Sa mort à la croix du calvaire pour un pécheur tel que vous, c'était comme une lumière qui soudainement entrait dans votre esprit, dans votre cœur. C'était comme si Dieu resplendissait sur vous. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Non pas par des œuvres que nous aurions pu faire, non, bien sûr que non, mais selon sa miséricorde. Il nous a sauvés. Par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de régénération, l'œuvre dans votre cœur, même avant que vous ne vous repentiez, vous avez réalisé que vous êtes un pécheur perdu et vous avez réalisé tout d'un coup votre besoin de Christ, vous avez compris les choses de Christ. Et ceci vous a amené à la repentance, à la foi. Pourquoi est-ce que vous vous êtes repenti, vous êtes confié en Christ? Parce que lui, secrètement, a œuvré dans votre cœur en premier, dans la régénération par son amour. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Au verset 5, il vous a donné une vie nouvelle, un nouveau départ. Au verset 6, qu'il a répandu avec richesse sur nous. Sauvé en un jour et transporté dans le royaume de Dieu, et nous avons reçu la lumière, la compréhension, la vie. C'est comme si quelque chose vous était donné, la nouvelle naissance, abondamment, dans toute sa plénitude. Cela ne prend pas toute une vie pour être sauvé, mais c'est une expérience, une crise. En un jour, par Jésus-Christ notre Sauveur, ainsi l'apôtre Paul nous amène aux bonnes œuvres, à être patient et doux, plein de douceur envers tous les hommes, et à obéir aux autorités civiles quand nous le pouvons, et à être plein de courtoisie, de douceur. Et il nous montre ce que nous étions dans le passé, et nous avons été sauvés, et l'œuvre de Dieu merveilleuse dans nos cœurs, au verset 7, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés par Dieu comme étant innocents, alors que nous ne l'étions pas. Déclarés par Dieu comme étant ceux qui méritent la vie éternelle, même si nous ne méritions rien. D'être justifiés par sa grâce, être déclarés justes et méritant sa faveur, par sa grâce seule, par sa miséricorde libre. Nous étions héritiers de la vie éternelle, un héritage certain, de la vie éternelle selon notre espérance. Quel passage merveilleux! Si vous pensez que votre assurance vacille, lisez Tite 3, versets 5, 6 et 7. Si vous ressentez que vous perdez patience avec les gens autour de vous, les gens du monde, alors nous pouvons comprendre ceci, mais lisez Tite 3, verset 3. Et ceci vous donne un bain pour vous humilier. Et vous vous rappelez de ce que vous étiez. Vous avez été sauvés par la grâce de Dieu. Ainsi, soyez patients envers les autres. Et à présent, nous sommes prêts pour le verset 8. Cette parole est certaine. Ne méprisez pas ceci. Cette parole est certaine. Et je veux que tu établisses fortement ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent, soient bien consciencieux pour pratiquer les bonnes œuvres dans l'Église, dans votre classe d'école du dimanche, si vous visitez le voisinage et vous aidez d'une manière ou d'une autre dans le service, dans l'œuvre de Dieu, les bonnes œuvres à la maison également, quand c'est tard le soir, que votre chère épouse est épuisée, vous êtes le mari, est-ce que vous aidez à la maison et vous aidez pour les dernières choses de la journée, ces dernières tâches à faire et vous les partagez et vous partagez le fardeau. Regardez ce verset. Qu'il s'applique à pratiquer les bonnes œuvres, les œuvres de l'Évangile, les œuvres pour aider les autres, les œuvres de bonté pour assister les autres. Est-ce que vous êtes jeune? Peut-être qu'on vous fait tout pour vous en tant qu'enfant. On vous aide, on vous assiste. On a tout fait pour vous. À présent, vous devenez de jeunes adultes et vous devriez faire bien plus à la maison pour aider vos parents. Vous devriez aider bien plus. Faites attention. Il y a des choses à faire à présent que vous n'avez jamais fait auparavant. Ce sont des bonnes œuvres, c'est ce que cela signifie. C'est toujours une bonne chose quand quelqu'un va être baptisé et quand les parents disent « Oh, mon enfant a été complètement transformé, ma fille, mon garçon ». Ils sont bien différents. À la maison, ils aident. C'est merveilleux. En tant que jeune chrétien, apprenez à faire de bonnes œuvres. Cette parole est certaine, et je veux que tu établisses fortement ces choses constamment, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres, à maintenir, à garder ces bonnes œuvres. Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. Et vous allez partager l'amour de Dieu pour ce projet pour l'humanité. En faisant ces bonnes choses, ces bonnes œuvres, l'œuvre de l'Évangile, ceci est inclus en cela. Chers amis, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Quel passage qui nous enrichit et qui nous encourage sur notre chemin.